Nous avons déjà dépassé la mi-temps de la retraite. Il nous reste moins de 2 jours. Donnez-vous entièrement, sans réserve, à votre pratique. Si en entrant dans cela, vous vous dites, comment puis-je me donner entièrement ma pratique? Alors laissez cette question elle-même devenir votre pratique. Laissez-la vous guider. Suivez-la avec confiance. Elle vous montrera le chemin à suivre. Dans certains monastères, les mots suivants sont parfois écrits derrière le han, ce bloc de bois que l'on frappe au début des rondes de zazen. Grand est le mystère de la vie et mort. Le temps est précieux. Éveillez-vous, éveillez-vous. Le temps n'attend personne. J'aimerais aujourd'hui poursuivre la lecture du Koan 19 du Mumonkan. L'esprit ordinaire, c'est la voie. Et j'aimerais en commenter certains passages. Le jeune Joshu, qui deviendra un jour l'un des plus grands maîtres du Zen, a quitté sa famille, ses amis et sa vie passée. Il a voyagé dans des conditions difficiles, du nord au sud de la Chine, afin d'y rencontrer le maître Nansen, à qui il a posé une seule question. Qu'est-ce que la voie? Maître Nansen lui a répondu, « L'esprit ordinaire, c'est la voie. » Cet esprit ordinaire, c'est notre propre esprit, tel qu'il apparaît d'instant en instant. Il n'y en a aucun autre. M. Lou nous rappelait souvent que nous devons toujours partir de là où nous sommes et que c'est une illusion de croire que le zen ou toute autre pratique spirituelle requiert un esprit particulier ou que la pratique spirituelle nous ouvrira éventuellement l'accès à un esprit spécial que nous ne possédons pas actuellement. Nous ne sommes pas ici pour devenir des êtres plus spirituels ou plus purs, plus compatissant ou plus sage. Ce ne sont là que des rêves. Nous sommes ici pour être ce que nous sommes déjà. Cet esprit ordinaire dont parle Maître Nansen est la voie, le chemin à suivre. C'est l'esprit de tous les jours. Nous ne pouvons pas le contourner. Passer à côté, pour ainsi dire. Il faut le traverser, l'arpenter au fur et à mesure qu'il se déploie en nous. Car c'est bien ce qu'il fait, n'est-ce pas? Cet esprit n'est pas une sorte de contenant dans lequel des choses telles que les sensations, les pensées ou les sentiments se trouvent et apparaissent. Non, les sensations, pensées et sentiments sont l'esprit lui-même. L'esprit dont on parle ici est vivant, dynamique, jamais le même, d'un instant à l'autre. Maître Nansen en dit, « La voie est comme l'espace vaste. Comment pourrait-il être question de ceci et cela être et non-être. » C'est là le cœur de ce Koan. Vous le savez, les Koans sont comme des fenêtres ouvertes sur notre propre nature. Ce ne sont pas des énigmes à résoudre ou des problèmes à déchiffrer. Il n'y a aucune solution à la Corane. Les Coranes n'expliquent rien et ne donnent aucune réponse. Ils permettent simplement d'approcher ce qui est avec humilité. Mais comment Maître Nansen peut-il dire que l'esprit ordinaire, cet esprit que nous connaissons si bien, rongé par l'ambition et l'avidité, l'intolérance et la dureté, la peur et la colère, mais aussi capable de compassion et d'affection, d'amitié et d'empathie. Comment Maître Nansen peut-il dire que cet esprit si contradictoire est comme l'espace vaste? Ce que nous appelons la personnalité, le soi centré sur lui-même, ce que saint Paul appelle le vieil homme, qui s'oppose à la venue de l'homme nouveau, tout cela s'enracine dans l'esprit ordinaire. Cet esprit est au service du moi ordinaire, le moi de tous les jours, celui-là même que nous sommes convaincus d'être depuis toujours. Où y a-t-il ici la moindre place pour l'espace vaste dont parle Nansen? Écoutons encore Dilgo Khyentse Rinpoche, l'un des grands maîtres du bouddhisme tibétain. Il nous dit « Pour le moment, la clarté naturelle de votre esprit et voilé par vos égarements. Mais au fur et à mesure que ces voiles se dissiperont, vous commencerez à découvrir la luminosité de l'esprit éveillé, jusqu'au moment où vos pensées se libéreront à l'instant même où elles apparaîtront, comme un trait sur l'eau disparaît dès qu'on le trace. » Ce qui nous sauve en définitive et nous permet avec le temps de comprendre ce dont nous parle Maître Nansen, c'est notre propre confusion et notre propre mal-être. Ce que Jeff Shore appelle « dis-ease », ce malaise intérieur qui plonge ses racines dans notre existence même. M. Lou disait parfois qu'il nous fallait entrer en amitié avec ce malaise intérieur, ne pas le repousser ou tenter de l'éviter. C'est notre meilleur allié sur la voie. Ce malaise, cette anxiété, ce sentiment d'impuissance, cette irritation profonde, tout cela naît de la division du soi centré sur lui-même. Ce moi personnel que nous sommes convaincus d'être, cherche des réponses définitives, inébranlables, indestructibles et absolues, afin d'échapper à sa propre souffrance. Et il ne voit pas que la souffrance qu'il cherche à fuir se nourrit de cette quête incessante et obsédante de vérité figée. Lorsque Joshua demande à Nansen « Qu'est-ce que la foi ?» Il veut que son maître lui donne une réponse qui mettrait fin à toutes les questions qu'il se pose. Mais Nansen ne lui offre aucun moyen de s'échapper. Dans son livre « The Iron Cow of Zen », M. Lou écrit « C'est en voyant clairement que les fragiles échafaudages de pensées et de convictions par lesquelles on a tenté de se rassurer, les havres de paix et les abris imaginaires contre les tempêtes que l'on a construits, C'est en voyant que tout cela est illusoire et non nécessaire que l'on s'éveille à la sécurité de ce qui est déjà là. De son côté, Hubert Benoît écrit « Selon Zen, l'être humain est de la nature de Bouddha. Il est parfait, rien ne lui manque. Mais il ne s'en rend pas compte, parce qu'il est pris dans l'enchevêtrement de ses représentations mentales. Il s'agite et croit en l'utilité de son agitation mentale, parce qu'il ne pense pas être autre chose que ce moi personnel, divisé et séparé des autres et du monde. Il ne sait pas qu'il y a en lui, dès maintenant, quelque chose d'autre que ce moi personnel, visible. Quelque chose d'invisible qui travaille en sa faveur dans l'obscurité. Ce quelque chose d'autre que le moi personnel visible, ce quelque chose d'invisible qui travaille en notre faveur dans l'obscurité. Qu'est-ce que c'est? Nous nous perdons dans l'esprit ordinaire parce que nous sommes pris dans cet enchevêtrement de représentation mentale dont parle Hubert Benoît. C'est un véritable labyrinthe de pensées, de sentiments, de sensations, d'impressions fugaces, de souvenirs, d'anticipation et de mille autres choses qui changent sans cesse. Et tout cela, nous l'appelons « moi ». Nous tentons désespérément de faire coller tout cela ensemble. Nous colmatons les brèches le mieux possible aux yeux des autres et à nos propres yeux. Mais il nous faut cependant toujours recommencer, car nous essayons vainement d'établir notre vraie demeure sur une illusion. L'illusion que nous sommes quelque chose. C'est pourquoi Joshua a demandé à Nansen, qu'est-ce que la foi? Comment sortir de cette illusion que je suis quelque chose, ceci ou cela? Cette chose-ci, plutôt que telle autre. Ou comme le dit Hubert Benoît, comment voir qu'au-delà de ce moi personnel divisé et séparé des autres et du monde que je crois être, il y a en moi quelque chose d'autre, quelque chose d'invisible, qui travaille en ma faveur dans l'obscurité. Comment m'y ouvrir. Lorsque vous êtes sur la natte, avez-vous remarqué à quel point une large partie de votre attention est captée, captivée même, par les contenus de votre esprit? Nous observons avec intérêt nos propres pensées, les émotions que nous ressentons. Nous tentons de les nommer, de les comprendre. Nous les analysons. Nous y réagissons en les chérissant ou en tentant de les fuir. Nous remarquons aussi nos diverses sensations, la douleur que nous ressentons ou notre respiration, par exemple, tentant de les contrôler d'une manière ou d'une autre. Nous imaginons l'avenir, ou revisitons le passé. Nous en tirons des images de nous-mêmes, où nous devenons tantôt de bonnes ou mauvaises personnes, tantôt supérieures ou inférieures, tantôt honnêtes ou malhonnêtes, et ainsi de suite, sans fin. Nous nous attachons à tout ce qui bouge en nous, croyant que tout cela est nôtre et nous appartient. Voilà ce qu'Hubert Benoît appelle l'enchevêtrement de nos représentations mentales. Nous nous y perdons souvent et nous tournons en rond au cœur de notre illusion la plus profonde. Quelle est-elle? C'est de croire que tout cela, c'est ce que nous sommes. De croire que tous ces états d'esprit qui se succèdent sans cesse en nous, c'est ce que l'on est. Mais parfois, cela se dissipe. L'on dirait tout à coup qu'apparaît une éclaircie au cœur même de cet enchevêtrement. On dirait que tout à coup, on sort de l'obscurité et qu'il y a de la lumière. Qu'est-ce qui se passe? C'est simplement que l'on sait, ne serait-ce que pendant quelques instants seulement, de refuser ou de retenir quoi que ce soit. Tout recommence alors à s'écouler. Notre attention se détache des contenus de notre expérience et se fond dans l'écoulement de notre expérience elle-même. L'impermanence de tout ce qui se manifeste en nous passe au premier plan. L'on entrevoit alors comme du coin de l'œil ce qui est. Les contenus de l'esprit deviennent secondaires et l'on ne s'y attache plus. On les laisse être ce qu'ils sont. Ils vont et viennent à leur guise. Et cela dure un certain temps. Puis l'on bascule à nouveau dans l'illusion. Un jour, lors d'une rencontre privée, quelqu'un demanda à M. Lowe : toutes nos expériences sont vides, n'est-ce pas ? Oui, répondit Albert. Donc, toute la vie est vide, poursuivit l'étudiant. Oui, répondit à nouveau Albert. Et la mort, demanda l'étudiant. C'est un rêve, dit Albert. Là où tout est impermanent, où la moindre chose pourrait-elle se déposer? Et là où tout est impermanent, où quiconque pourrait-il s'établir? Qui sommes-nous vraiment? Et où croyons-nous que nous allons trouver notre vraie demeure, alors que tout s'écoule sans cesse? La nature de Bouddha, c'est l'impermanence, nous dit Maître Dogen. Notre vraie demeure, c'est l'impermanence. Joshua a demandé à Nansen : qu'est-ce que la voix ? Nansen lui a répondu : la voix, c'est l'esprit ordinaire. Joshua a continué à questionner Nansen jusqu'à ce que ce dernier lui dise : la voie est comme l'espace vaste. Comment pourrait-il être question de ceci ou cela, être ou non-être? Et le Coran nous dit qu'à ces mots, Joshua s'éveilla soudain. Dans son commentaire, Maître Mumon écrit : Joshua interroge Nansen, qui l'éclaire, mais même si la glace est fondue, le conduit demeure bouché. Même si Joshua a atteint l'éveil, il a dû continuer à l'approfondir pendant 30 ans avant de le réaliser complètement. Voyez-le, il nous faut sans cesse revenir aux 4 vœux que nous chantons chaque jour. Tous les êtres innombrables, je fais vœu de libérer. Les passions aveugles et sans fin, je fais vœu de vaincre. les barrières infinies du Dharma. Je fais vœu de franchir. La grande voix du Bouddha, je fais vœu de l'atteindre. D'instant en instant, ces quatre vœux donnent une direction à notre pratique. Et cela, alors même qu'il ne manque rien et que chaque instant tel qu'il est parfait. Mais puisque nos illusions sont sans fin, nous n'arriverons jamais à toutes les éliminer. Sachant cela, nous allons quand même continuer humblement à tenter de le faire d'instant en instant. Il n'est pas question de les détruire ou de les repousser, mais bien plutôt d'entrer en amitié avec elles, de cesser de s'opposer à leur existence, puis de les laisser s'écouler librement sans les retenir. Et faire cela, c'est la voie du Bouddha. Nous n'arriverons jamais à échapper parfaitement à nos illusions. Mais ce n'est pas nécessaire. Notre pratique et nos vœux sont sans fin. Et enfin, le poème de Mumon. Au printemps des fleurs, en automne la lune, en été le vent frais, en hiver la neige. Si l'esprit n'est pas encombré de choses inutiles, c'est la meilleure saison de l'humain.